dégage sur le canal 72-72.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Radio Ponton, l'émission qui parle de tout ce qui flotte sur une, deux ou trois coques, à la voile ou au moteur, à la rame ou avec des foilers. Toute l'actualité de la plaisance et du nautisme en moins d'une heure, c'est maintenant et c'est ici. Ce mois-ci, une émission dédiée aux effets secondaires du coronavirus. Nous allons parler de son impact sur l'industrie nautique, mais également sur la liberté que les plaisanciers peuvent espérer retrouver cet été. Nous, on y croit. En attendant de pouvoir larguer à nouveau les amarres, beaucoup d'interrogations sur l'avenir des salons programmés en 2020. Nous évoquerons le cas du salon de Cannes et celui de Paris avec leurs dirigeants. La plupart des chantiers est à l'arrêt depuis quelques semaines, mais quelques annonces de reprise partielle ont été faites. On fera le point pour voir ensemble quand et à quelles conditions les bateaux commandés pourront être livrés. En attendant, tous les professionnels s'organisent pour être prêts quand les arrêtés préfectoraux autoriseront de nouveau la navigation. Ailleurs dans le monde, quelques aménagements ont déjà été annoncés, notamment pour libérer les embarcations bloquées dans la zone Caraïbes et qui n'ont pas l'intention d'y rester jusqu'à la saison cyclonique. Et pour vous toutes et tous qui nous écoutez et qui rêvez d'embarquer, nous ferons le point avec notre partenaire Globe Sailor, agence de location de bateaux, pour aborder les différents scénarios auxquels nous pourrions être confrontés cet été. Les skippers de la course au large sont eux aussi à quai avec un calendrier 2020 qui est évidemment chamboulé. Nous serons en ligne avec Damien Séguin pour parler d'un second semestre qui ne va pas se dérouler comme prévu. Les pêcheurs aussi sont impactés, même s'il paraît que des chalutiers hollandais croisent dans le golfe de Gascogne et, tenez-vous bien, que des rorquals bloquent le port de Marseille. Heureusement, vos magazines préférés sont toujours en kiosque, de quoi occuper vos journées avec du papier iodé. Nous ferons le tour des sommaires de la rédaction ce mois-ci. Pour aborder tous ces sujets, notre équipe d'experts issus des rédactions de Motorboat et Neptune Yachting, Stéphanie Deloustal, Michel Luizet, pour Voile Magazine et le monde du multicoque, François-Xavier de Crécy dit FX.
Salut Pierre-Yves, salut tout le monde.
Damien Bidène. Pour Pêche en mer, Benoît Simon.
Salut tout le monde.
Notre consultant préféré, Olivier Perretier.
Bonjour à tous.
Et notre invité partenaire, Olivier Albahari du Globe Sailor, agence de location de bateaux.
Bonjour, bienvenue.
À la régie, c'est Damien, moi c'est Pierre-Yves. Ne lâchez pas la barre et montez le son, vous êtes sur Radio Ponton. Alors, bienvenue à tous. On va commencer en effet par l'actualité des salons. On a avec nous en ligne, en direct, Alain Pichavant, qui est commissaire général du Salon de Paris. Alain, comment ça se présente?
Ça se présente un peu dans le flou. À l'heure actuelle, bon, le Salon de Paris est un petit peu en stand-by parce que on avait tout préparé et on était prêt à diffuser les informations sur un nouveau salon nautique puisqu'on abandonnait le Haut-Lin cette année. C'est tombé juste au moment où le confinement a été mis en place, puisque les premières annonces devaient être faites pendant l'AG de la Fine. Donc là, c'est vrai qu'on est un petit peu en stand-by et dans l'expectative pour essayer de comprendre au moins deux paramètres qui sont quand est-ce que la pratique va pouvoir recommencer, parce que c'est un point essentiel, que les gens puissent aller sur l'eau, faire du bateau, consommer du nautisme. Ça, c'est un point essentiel. Et puis, le deuxième point, c'est dans quel état sera la filière nautique à l'horizon du début de l'automne, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est, enfin, nous, avec un salon au mois de décembre, on est un peu dans l'expectative déjà pour voir ce qui va se passer en septembre. En septembre, donc, il y a Cannes, le Yachting Festival, il y a le Grand Pavois de La Rochelle, il y a des salons comme Gênes qui ont déjà décalé. Qui ont déjà pris des mesures. Bon, pour l'instant, on est un petit peu en stand-by. Je pense que nous, habituellement, on lance les réservations d'espace à partir du mois de mars. Je pense qu'on va attendre mi-mai là pour lancer, parce que on est obligé de réorganiser un petit peu le salon en fonction de ce qui va nous arriver et de ce qui va arriver à la filière nautique, au tourisme sur l'eau. Dans les mois qui viennent, et sachant que encore une fois la partie de la saison qui va fonctionner juin, juillet, août, pour l'instant on n'a pas de bonne visibilité là-dessus.
Donc, beaucoup d'incertitudes. Je recevais tout à l'heure un email. Monaco apparemment pour l'instant maintient ses dates, donc toute fin septembre le salon de Monaco a l'air de maintenir ses préparations, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Ouais,
je crois que tous les grands événements, de toute façon, s'annulent ou en tous les cas donnent une position environ 2 mois et demi avant qu'ils se déroulent. Dans le cas du salon nautique, on est effectivement dans ce cas-là, parce que accueillir 200 000 personnes, c'est de la logistique assez importante. Et ce qui veut dire que nous, vers mi-septembre, on devrait pouvoir communiquer et on aura une bien meilleure visibilité. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on doit anticiper, puisque les inscriptions au salon, il faut qu'on les, fasse beaucoup en amont, avec des engagements qui sont forcément aléatoires, parce que là, mi-avril, il reste des variables quand même importantes qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'a pas une bonne visibilité, puisque les annonces du président disant que le confinement s'arrêterait, parce que c'est du conditionnel à partir du 11, ça nous permet d'envisager les choses, mais c'est assez compliqué quand même à ce stade.
Est-ce que vous avez une autorisation officielle à demander dès aujourd'hui ?
Ah ben, nous, de toute façon, on a une autorisation officielle parce qu'on est un gros rassemblement de public. L'une de nos difficultés, ça pourrait être la limitation du nombre de rassemblements à 1000, 2000, 5000. Nous, on a des journées où on reçoit 40 000 personnes. Alors, le vendredi avec la nocturne, c'est 40 000 personnes, ça en outil. Donc forcément, ça a des contraintes qu'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui et sur lesquelles on n'a aucune visibilité.
Est-ce qu'il peut y avoir une différence de traitement entre un salon indoor et un salon outdoor, en extérieur, d'un point de vue administratif ?
De ce qu'on voit là actuellement par rapport aux événements, il n'y a pas de différence de traitement. C'est-à-dire que tous les festivals de l'été, par exemple, enfin ceux qui se tiennent jusque courant juillet, sont en train de s'annuler. Hein, ils sont annulés là, depuis le début de la semaine. Tous les grands rassemblements sont en train de s'annuler, donc 2 mois et demi avant. Hein. A priori, bon, le Tour de France à vélo, on a vu partirait fin août, donc lui, il s'est décalé. Ce sont des événements outdoor. En indoor, on sait que les salons ne se tiennent plus en France, en tous les cas, depuis la première semaine du mois de mars. Donc, c'est une activité, enfin, l'activité d'événement est complètement arrêtée. De la même manière, les concerts, toutes ces choses-là, tout est arrêté. Donc, mais il n'y a pas une différence à proprement parler de traitement au niveau, en tous les cas, de la réglementation.
Mais moi, j'ai une question parce que je suis globe-seller, on est exposant depuis 10 ans. Si les pré-réservations sont pour le mois de mai, de toute façon, on ne saura pas au mois de mai si le salon pourra se tenir de manière sûre pour décembre. Donc, est-ce que c'est possible de faire machine arrière pour un exposant si jamais les conditions ne sont pas réunies et du coup d'être remboursé de ses acomptes? Comment ça va se passer, parce qu'entre mai et décembre il peut se passer plein de choses.
Ah ben c'est certain, de toute façon, encore une fois je redis ce que j'aime dire, c'est-à-dire que nous ce sera vers mi-septembre que la décision sera prise de tenir le salon ou pas. C'est, le salon se tiendra, pour être très clair, le salon se tiendra s'il n'y a pas une interdiction réglementaire. Si les manifestations recevant du public peuvent se tenir au-delà de, enfin, sur des volumes importants de personnes, le salon se tiendra. Maintenant, on voit Gênes, par exemple, les décisions qu'a pris Gênes. Gênes, ils ont une hypothèse, donc ils ont retardé le salon de 15 jours, donc début octobre. Et un salon qui devait durer 6 jours, il pourrait durer 9 jours, c'est-à-dire qu'ils vont l'étaler dans le temps. Ce qui n'est pas simple pour les exposants, parce qu'un salon court, passer d'un salon court à un salon long, c'est compliqué. Mais pour étaler les visiteurs sur 9 jours au lieu de 6 jours, ils vont augmenter le nombre d'entrées. Enfin, il y a différentes dispositions qui sont en train de prendre. Mais bon, aujourd'hui, la grande inconnue, c'est de savoir où on en sera dans 5 mois et demi, donc mi-septembre, pour savoir si on pourra tenir le salon réellement ou pas. Concernant les acomptes, ce dont tu parlais, Olivier, c'est des choses que, de toute façon, avant mi-septembre, on n'a pas prévu d'avoir des acomptes, ce qui nous pose quelques problèmes de trésorerie, mais on est en train, comme toutes les entreprises, d'essayer de gérer au mieux cette situation.
En dehors du problème de législation, est-ce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'exposants pour que le Salon de Paris ait lieu ? Est-ce qu'en dessous d'un certain nombre d'exposants, vous dites non, on ne fait plus
Si déjà on est toute l'équipe de la rivière, ce sera bien. Ça fait déjà du monde. Non, non, mais il est évident qu'il faut un minimum d'exposants. Encore une fois, je le disais, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, et je participe à beaucoup de réunions, notamment des réunions qu'a organisé la FIN, parce que la FIN a vraiment beaucoup soutenu la filière depuis le début, en particulier sur toute une partie qui était un travail d'inventaire au niveau des lois, au départ et tout ça. Donc, la FIN organise beaucoup de réunions et on est en contact avec beaucoup d'exposants, hein, d'exposants du salon. Alors, c'est pas uniquement les adhérents de la FIN, hein, c'est toute la filière qui participe à ces réunions. Et on se rend compte que, alors, déjà, en fonction des différents métiers, c'est assez hétérogène. C'est-à-dire que il y a des métiers qui continuent à fonctionner à 50%, puis il y a des métiers comme le métier de la location, qu'elle soit maritime ou fluviale, où tout est pratiquement arrêté. Hein.
Alain, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la capacité des chantiers à pouvoir venir présenter des nouveautés ? Il y en a un certain nombre qui sont arrêtés et qui vont déjà avoir des soucis de délai de livraison pour des bateaux existants comme
on est. Alors, pour être très clair, en France, donc, les gros chantiers sont arrêtés. Sachant que Fontaine Pajot Dufour recommence une activité là depuis une semaine, 10 jours.
Nil Trimaran, il recommence.
Ouais, alors, donc je parlais des gros chantiers, hein, ceux qui produisent beaucoup. Sachant que les fabrications qui sont polonaises, par exemple pour le groupe Beneteau, ont continué à être produites. Alors maintenant, ils commencent peut-être à être un peu en rupture, mais globalement, ça continuait. Les petits chantiers ont plutôt continué, alors peut-être qu'à 50%, mais ils ont plutôt continué à travailler. À l'étranger, c'est un peu différent, parce que d'après les informations que j'ai, Hans et Bavaria continuent à produire, par exemple, pour ne pas les citer. En Europe du Nord, c'est également le cas. Donc, la production de bateaux, j'ai tendance à dire, elle existe. Ce qui peut prendre du retard, c'est les nouveautés. Les nouveautés, effectivement, comme les productions sont ralenties, elles risquent de sortir un petit peu en retard. Et ce qui devait être prêt au mois de septembre, est-ce que ça sera sans doute pas en totalité, en tous les cas, c'est ce qu'on peut prévoir.
Alors, si je peux intervenir, moi, j'ai eu des infos aussi concernant ce point-là, c'est que apparemment les réalités sont vraiment très différentes d'un pays à l'autre, c'est ce que tu viens de dire. Mais en dehors même, si tu veux, de la possibilité de fabriquer ou pas des nouveautés, il va y avoir un problème de stock aussi pour les concessionnaires. Donc je pense que les chantiers, ça va être compliqué pour eux de sortir. Je pense au groupe Beneteau ou même à la marque, ne serait-ce qu'une marque comme Jeannot qui chaque année sort une douzaine de nouveautés. Là, ils n'en prévoient que 4 ou 5, mais c'est aussi par rapport à leur réseau, ils vont pas inonder leur réseau de nouveautés alors que c'est une année quand même morte, une saison morte depuis le mois de février, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi cette problématique là. Et puis moi j'ai aussi eu d'autres infos concernant le fait que en ce qui concernait la production française, donc qui s'est arrêtée très vite au moment du confinement, en tout cas vraiment chez les chantiers français, ce que tu disais, qui commence un petit peu à repartir là. Mais les concessionnaires, eux aussi, se sont arrêtés assez rapidement au début. Et puis finalement, au bout d'une semaine ou deux, ils ont commencé à retravailler pour toute la partie technique, mécanique, entretien, préparation des bateaux. Et en revanche, ils ont complètement arrêté toute la partie commerciale, quoi. Donc,
Oui, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que alors ça s'est arrêté d'un seul coup, hein, le 17 mars, là. Puis très vite le négoce, la maintenance a repris. Les ateliers, j'étais dans une réunion là avec des motoristes tout à l'heure, les ateliers par exemple fonctionnent. Les ateliers fonctionnent et aujourd'hui ce qu'ils cherchent à faire c'est à mettre à l'eau les bateaux, c'est-à-dire les bateaux neufs qu'ils ont à livrer. Alors là ils ont un problème parce qu'ils ne peuvent pas accueillir les nouveaux propriétaires, donc ils ont un problème pour immatriculer les bateaux, les livrer. Ils cherchent également à mettre à l'eau les bateaux, et là encore, il y a eu des difficultés au début parce que beaucoup de ports étaient fermés.
Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont ouverts aux professionnels.
Ouais. Voilà, les professionnels, ouais, parce que les professionnels de plaisance n'étaient pas tout à fait des professionnels. Ah, mais ça s'est réglé avec les affaires maritimes, ça s'est réglé avec les ports. Et globalement, maintenant, les ports sont à peu près ouverts. Il y a eu d'ailleurs une coordination entre la FIN et les différents ports. Et ils ont passé un accord en fin de semaine dernière pour vraiment que le maillon port de la filière soit actif. Donc, c'est, les derniers problèmes sont en train de se résoudre et les professionnels donc, peuvent mettre les bateaux à l'eau. Et il y a des endroits très particuliers, par exemple à Arcachon, où les professionnels ne sont pas sur le port, mais sont plutôt sur Gujan, où ils doivent emmener les bateaux au port et ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient arrêtés par les affaires maritimes. Donc, il y a des problèmes locaux, encore, il reste encore quelques problèmes locaux, mais tout ça, c'est en train de s'arranger. Et je pense que les professionnels, les ateliers, travaillent convenablement actuellement. C'est-à-dire, en fait, le seul objectif, et l'objectif de tout le monde, c'est de pouvoir aller naviguer dès qu'on aura les autorisations de renaviguer.
Absolument. Est-ce qu'on a des nouvelles du salon de Cannes, puisqu'il est censé se dérouler un petit peu avant celui de Paris? François-Xavier, tu avais des...
On devait avoir avec nous Sylvie Ernoux, qui est donc responsable du salon de Cannes. Alors malheureusement, elle s'est fait mal. Elle a dû rien de très grave et pas de Covid, mais elle s'est blessée et elle a dû même aller aux urgences. Bon, rien de dramatique, mais bon, on lui souhaite un rapide rétablissement. Mais malheureusement, elle n'est pas avec nous. Ce qu'elle a pu me dire moi hier, c'est que ils étaient complètement mobilisés et au travail pour ouvrir le salon comme prévu en septembre. Alors bon, avec tout ce flou hein, qu'on connaît évidemment, mais bon, il travaillait vraiment sur cette date-là. Et moi, ce que j'attendais d'elle, c'est de savoir quels étaient les scénarios qui étaient prévus, les plans B, C, D en cas de souci, soit report, soit redimensionnement. Bon, pour l'instant, il travaille sur le dimensionnement qui était celui de pour la première fois l'année dernière, c'est-à-dire avec deux ports. Il travaille sur le schéma normal en attendant d'y voir plus clair. Et c'est très attendu par les professionnels, notamment par les grands chantiers. Cannes, pour eux, c'est vraiment une question essentielle pour le lancement de leur, pour ouvrir leur carnet de commandes des salons d'automne. La Rochelle, bien sûr, le Grand Pavois, mais quand même pas mal Cannes aussi pour les chantiers internationaux.
Avec la problématique, tu viens de le dire, fixe, c'est que Cannes, c'est un salon quand même très international. Quoi. Donc, cette problématique, premier salon de l'automne, là, donc c'est lui qui est censé ouvrir le bal. Donc, ça sera lui le plus tôt et avec en plus beaucoup de chantiers qui viennent. Et puis, non seulement des chantiers, mais aussi un visitorat très, très international. Donc, où on en sera en septembre?
Effectivement, il y a aussi beaucoup d'Américains et c'est sûr, enfin, je vois pas comment des Américains pourraient venir à Cannes en septembre. Il y a toute une partie de la clientèle qui sera pas au rendez-vous.
Ça c'est clair. Ouais, les Italiens. Tout à l'heure, tu parlais à l'un des chantiers d'Europe du Nord qui avait pas mal travaillé. Je pense qu'à contrario, en Italie, ils étaient un peu à l'arrêt, quoi.
Les éléments qu'on a d'Italie, alors c'est vrai que pour les gros chantiers, ils étaient à l'arrêt. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits chantiers en Italie. C'est un petit peu comme en France. Hein, ça continue à travailler. Alors, concernant Cannes, là, ce que vous disiez, c'est très vrai. C'est-à-dire que à Cannes, il y a 60% des visiteurs qui sont étrangers. Sur ces 60%, il y en a un tiers qui viennent d'Italie. Donc, ils ne viennent pas nécessairement en avion. Mais tout ce qui est la partie touristique, et je pense qu'on va parler un petit peu là de la location, mais tout ça c'est complètement à l'arrêt parce que les compagnies aériennes vont mettre du temps à repartir et les frontières vont pas s'ouvrir instantanément, hein. Donc c'est vrai que c'est quel visiteurat il y aura à Cannes, quoi.
Ouais.
Tout à fait.
Puis comment les gens vont se loger à Cannes, tu vois, il y a cette problématique aussi, il y a tout ce qui est lié au tourisme, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, il va bien falloir ça va être compliqué, c'est sûr.
Enfin, ce qu'on retient néanmoins, c'est que si on est propriétaire d'un bateau aujourd'hui, on peut appeler le chantier qui a l'habitude de le gérer pour au moins le faire caréner, le faire préparer pour la saison en espérant qu'on nous donne l'autorisation de renaviguer derrière. C'est bien ça?
C'est ça.
Ce qu'il y a de certain, les professionnels travaillent, préparent, déshivernent les bateaux, les mettent à l'eau, hein, puisque maintenant ils ont accès aux grues, donc ils peuvent les mettre à l'eau et ils essayent de s'avancer parce qu'il est certain que un chantier peut mettre 50 bateaux à l'eau par semaine, un chantier qui tourne bien, mais parfois ils ont 200 à mettre à l'eau quand il commence à faire beau. Donc ils essaient de s'avancer pour être prêts quand on pourra renaviguer.
Absolument. Alors ça, c'est un petit peu le tour de piste sur les professionnels et les salons. Moi, j'ai regardé un petit peu de mon côté des voiliers qui étaient aux Caraïbes. Je pensais à toi, Olivier. Je ne sais pas où est ton bateau en ce moment.
Eh bien, mon bateau est au sec dans un chantier à La Grenade qui est fermé. La Grenade est en confinement. Ils ont commencé avant la France. Ils ont fermé d'ailleurs leurs frontières aux Français bien avant le confinement en France. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des Français qui sont au mouillage dans les baies de La Grenade et qui ont quelques difficultés à s'approvisionner parce que il y a un système d'agenda d'ouverture des commerces qui est assez compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas de drame, mais en tout cas, ils font partie tous ces gens, en particulier, j'en connais certains qui avaient déjà planifié leur retour en France, puisqu'on est en avril et on commence à remonter l'arc antillais vers Antigua quand on veut rentrer en mai vers les Açores et la France. Et ces gens-là sont dans l'incertitude totale, alors qu'ils avaient planifié leur retour, puisque s'ils sont en année sabbatique ou même d'ailleurs en fin de voyage atlantique, eh ben, ils sont un peu comme Alain avec le salon. Eux, ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont devenir dans les mois qui viennent, parce qu'ils n'avaient pas du tout prévu de passer la saison des cyclones aux Caraïbes.
Tout à fait, d'autant que les assureurs, d'ailleurs, font commencer la saison des cyclones au 1er juin, donc il y en a qui sont dans l'impossibilité de rester. J'étais ce matin avec l'organisateur de l'ABC, l'Atlantic Back Cruising, qui est un des rallyes qui devait ramener, entre guillemets, 30 voiliers en Europe. Départ initialement prévu le 5 mai, mais aujourd'hui, ils réfléchissent, ils voient s'ils peuvent décaler leur départ ou l'annuler, tout simplement. Il y a un certain nombre de bateaux qui sont, dans ce cas, soit bloqués là-bas, soit des bateaux qui sont seuls avec des équipages qui sont en Europe et l'impossibilité, bien sûr, de pouvoir rallier ne serait-ce que la Martinique ou la Guadeloupe. Alors, il y a un groupe, une communauté solidaire qui s'est créée sur un groupe WhatsApp de manière un petit peu informelle, qui était baptisé Sailing Home, dans lequel les skippers s'invitent et partagent des informations. Donc on a appris que le passage d'une île à l'autre, par exemple, ne serait-ce qu'entre la Martinique et la Guadeloupe, était déjà compliqué. Il y a une sorte de quarantaine de 2 semaines qui est nécessitée à l'arrivée. Mais on a aussi l'île de Saint-Martin, en tout cas dans la partie française, qui a aménagé une zone de transit pour permettre à des voiliers de se ravitailler en carburant, en eau ou en denrées. Il y a des marinas aux Bahamas, il y a 5 marinas qui, elles aussi, ont créé une zone de transit pour pouvoir apporter tous les services disponibles à ceux qui vont prendre la route du retour, et même les Canaries qui organisent aujourd'hui le transport, ou en tout cas le transfert de bateaux d'une marine à l'autre. L'idée, c'est que tout le monde puisse, évidemment, revenir à la maison. On note au passage que, même si on a l'interdiction de naviguer, à partir du moment où votre voilier revient à son port d'attache, aucune autorité ne pourra vous empêcher quelque part de rentrer dans un port. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, la dernière option que considère un certain nombre de propriétaires, eh bien, c'est le rapatriement en cargo qui va faire les affaires des transitaires anglo-saxons. Il y a la compagnie Seven Stars qui travaille à la mise en place d'une liaison qui ferait Pointe-à-Pitre-Brest et qui partirait fin avril, début mai. Et puis, on a le transitaire anglais Peters & May qui est, lui, sur une liaison Antigua-Southampton. Voilà. Donc, ça coûte forcément des sous de ramener son bateau par ce biais-là, mais c'est quand même peut-être la solution.
Je voudrais préciser qu'encore faut-il pouvoir effectivement déplacer son bateau. À Saint-Martin, par exemple, les plaisanciers qui habitent à bord de leur bateau se sont fait verbaliser parce qu'ils s'étaient mis à l'eau pour caréner. Et même pas pour nager de façon récréative et sportive, mais simplement pour passer une éponge sur la carène, ils se sont fait verbaliser.
Donc, en Guadeloupe, pareil. J'ai la même écho en Guadeloupe d'un guide. Un copain guide qui m'a payé en Guadeloupe pour me dire pareil que verbalisation.
En revanche, il y a des bateaux quand même qui naviguent, puisque moi j'ai un copain là qui vient d'arriver ou qui va arriver à Madère, et j'en ai un autre qui rentrait des Canaries, donc là ils sont en train de rentrer. Et alors là, ce qui est la bonne technique, hein, c'est vraiment de prévenir le port, de prévenir les affaires maritimes locales, qu'on va arriver, qu'on fait juste une étape pour se reposer, pour ravitailler, et qu'on repart. Et a priori, ça fonctionne. Si on anticipe bien avec localement, avec le port, et puis avec les affaires maritimes, le quartier des affaires maritimes concernés, on réussit normalement à naviguer. En tous les cas, moi, mes copains, les deux sont passés par Madère. Et ils ont été confinés à Madère, mais ils ont pu repartir. Et là, il y en a un qui est en Espagne et l'autre qui arrive à Madère.
Bien, très bien. On a avec nous, ils viennent de nous rejoindre, Damien Seguin et Sébastien Simon, qui sont des skippers. Bonjour Damien, bonjour Sébastien, vous m'entendez?
Oui, très bien, bonjour à tous.
Voilà. Merci de nous consacrer quelques minutes. Vous aussi, a priori, vous êtes à quai. Qu'est-ce qui va se passer dans le second semestre 2020? Qu'est-ce qui est modifié dans votre agenda?
Eh ben, pas mal de choses, hein, mine de rien, parce que nous, le confinement a commencé, on avait déjà tous tous les IMOCA en chantier. Et donc voilà, on a arrêté l'activité pendant quelques temps, le temps de voir un petit peu comment on allait s'adapter à tout ça. Mais voilà, les bateaux sont toujours pas à l'eau. Les équipes ont repris un petit peu le travail dessus, mais vraiment en groupe réduit. On fait avec aussi les fournisseurs qui n'ont pas tous repris les activités. Mais voilà, de toute façon, on se doute bien que la saison sportive va être un peu réaménagée parce que les premières courses qui devaient avoir lieu en juin auront pas lieu. Et de toute façon, on n'a pas les bateaux qui sont prêts à mettre à l'eau. Donc tout ça, ça va se poursuivre un certain nombre de temps. Et puis on s'adaptera. De toute façon, nous, la vision pour nous, elle est portée vraiment sur le Vendée Globe et le départ le 8 novembre. Pour l'instant, il n'est pas question de bouger cette date-là. Mais la question centrale, c'est de savoir comment on arrive à préparer les bateaux efficacement pour être prêt pour faire un tour du monde en solitaire sur ces bateaux-là, quoi.
Ok. Et Sébastien, bienvenue à toi aussi. Tu nous as quitté une seconde. Donc, c'est quoi votre quotidien en fait d'entraînement? C'est des formations, donc c'est plus théorique, c'est de la météo, routage?
Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, c'est un fonctionnement un peu particulier parce que je ne peux pas aller voir mon bateau puisqu'on fonctionne en équipe réduite et on limite le nombre de personnes dans l'atelier. Donc voilà, je suis bloqué à la maison. Maintenant, j'en profite pour être studieux et travailler un petit peu la météo. Donc je prends le temps pour faire ça. On a pas mal de formations avec le pôle Finistère course au large. Et puis on essaie de s'organiser au mieux avec toute cette incertitude, comme le disait justement Damien, sur le programme de course à venir, quand est-ce qu'on va réussir à mettre à l'eau, parce que c'est pas évident de définir des dates précises, parce que quand est-ce qu'on aura le droit de naviguer, quand est-ce que nos prestataires nous auront fourni les dernières pièces, quand est-ce qu'on sera prêt, nous, à mettre à l'eau. Donc c'est plein de questions qu'on se pose et on essaie de se préparer au mieux pour avoir le temps pour être prêt pour le Vendée Globe.
Dans le rétro-planning, justement, par rapport au Vendée Globe, ça... Évidemment, ça perturbe énormément les choses. Comment y a la question des qualifs. Y avait une transat aller-retour qui servait aussi à ça. Est-ce que ça va rester possible, les mêmes exigences en termes de qualifs? Est-ce qu'il va falloir revoir les règles à la baisse? Comment vous voyez les choses?
Alors exactement, au départ, on devait avoir dans le programme initial deux transatlantiques, donc deux transats qui partaient de Brest jusqu'à Charleston, puis un retour New York-Vendée. La Brest Atlantique, la The Transat devait partir le 10 mai. Donc voilà, forcément, on est obligé d'aménager un petit peu les choses. Donc ça devait être deux courses qualificatives avant le Vendée Globe le 8 novembre prochain. Finalement, la classe IMOCA s'est réorientée un petit peu en mettant que la New York Vendée en course qualificative. Alors elle changera probablement de nom. En attendant, ça va être une course qui va être réaménager probablement aux mêmes dates, aux alentours de mi-juin ou début juillet, on ne sait pas encore exactement. Mais c'est cette course qui nous qualifiera pour le Vendée Globe. Et après, il y aura probablement d'autres courses ou événements pour qualifier les derniers bateaux. En tout cas, le mot est clair pour tout le monde, c'est qu'il y aura une certaine souplesse dans les qualifications pour le Vendée Globe.
C'est des bateaux qui sont en cours de fiabilisation, mais sur lesquels vous avez déjà pas mal navigué, vous deux. Est-ce que l'absence de navigation joue sur le mental avant de partir dans une aventure comme le Vendée Globe? Finalement, la technique, vous n'êtes pas loin d'être prêt, mais c'est mentalement, quoi, faire corps avec son bateau, donc naviguer le plus possible, c'est souvent ça qu'on entend et qui risque de vous manquer.
Ouais, c'est sûr que ça commence à trouver le temps long à la maison et de pas naviguer sur les bateaux, ça c'est évident. Après l'avantage qu'on a, Seb et moi, c'est qu'on a mis les bateaux à l'eau depuis déjà un certain temps, donc on a déjà navigué sur nos bateaux. Il y a certains skippers qui n'ont pas encore mis leur bateau à l'eau et jamais navigué dessus, donc pour eux c'est une vraie course contre la montre. Donc on voit tout l'intérêt d'avoir des partenaires auprès de nous qui s'investissent suffisamment tôt pour construire des bateaux assez tôt dans les saisons pré-Vendée Globe pour pouvoir naviguer, se qualifier sur des courses avant, comme des Routes du Rhum, comme des Transats Jacques Vabre, pour faire tout le boulot de qualification, de préparation et de fiabilisation en amont du Vendée, parce qu'on se rend bien compte que voilà, il suffit qu'il y ait quelque chose d'imprévu qui arrive et ça peut remettre complètement le calendrier en cause. Donc ouais, c'est sûr que, pour prolonger ce que disait Sébastien, on s'adaptera évidemment. Le 8 novembre, c'est pas demain, mais ça commence à être après-demain assez vite. Voilà, le but, c'est que tout le monde quand même soit prêt avec un bateau qui est en état de prendre le départ d'un Vendée Globe en temps et en heure. Donc voilà, je pense qu'on est tous suffisamment responsables et intelligents pour pouvoir rediriger et replanifier l'ensemble de la saison dans cet objectif-là.
Il y a l'un ou l'autre des solutions techniques que vous risquez de mettre de côté parce que vous n'aurez pas eu le temps de les mettre au point ou pas vraiment. Je sais que toi, Damien, tu étais en train de réaménager tout ton habitacle, ton roof. Seb, je ne sais pas trop quels étaient tes derniers chantiers de fiabilisation. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, bon, OK, ça, on n'aura pas le temps de le mettre au point, on va se concentrer sur autre chose?
Ouais, bah c'est on va dire que c'est l'histoire de nos projets, hein, quelque part. C'est qu'au départ, c'est très, très ambitieux et à un moment, il faut recentrer un peu les objectifs. Et là, c'est d'autant plus vrai que finalement, on a de moins en moins de temps et l'équipe ne tourne pas à fond puisqu'on ne peut pas se le permettre, on met en danger personne. Donc forcément, il y a certains choix qu'on est obligé de faire prématurément. C'est un peu dommage. Maintenant, ça fait partie du jeu et il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et c'est pas toujours simple. Hein. Et surtout quand on a un bateau neuf, il y a énormément de choses à mettre au point. Et en plus, j'ai eu un chantier d'hiver très, très ambitieux avec le changement de foil et même de philosophie de foil. C'est plus du tout les mêmes. Donc, ça engendre énormément de travaux dans le bateau, de fiabilisation dans le bateau aussi. Donc, forcément, voilà, on avait encore beaucoup de travail dès le début de ce confinement.
Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu entends par philosophie de foil?
Bah, ils n'auront pas du tout la même forme, c'est ça. Ils sont typés pour le Vendée Globe, quitte à sacrifier certaines allures du bateau, dans lesquelles le bateau sera un petit peu moins performant. Par contre, on essaie de privilégier vraiment les allures de portant pour que le bateau puisse être plus facile au portant, puisque c'est des allures qu'on rencontre beaucoup plus souvent sur un parcours autour du monde. Et surtout en solitaire, c'est très important d'avoir un bateau facile dans ces allures-là, quitte à parfois, dans des conditions qu'on rencontrera moins souvent, essayer de se concentrer et donner un petit peu plus d'énergie pour faire avancer le bateau.
Ok. Mais le Vendée Globe, on ne voit pas trop pourquoi il pourrait ne pas partir à la date prévue. Ce qui peut poser question à la rigueur, c'est le village, les semaines avant le départ. Mais bon, le Vendée a communiqué aujourd'hui pour dire qu'ils travaillaient toujours sur la même date et qu'ils allaient de l'avant, et tout en évoquant ces questions sur les qualifications dont tu parlais, Sébastien, qui sont en discussion avec la classe. En tout cas, on vous remercie tous les deux.
Merci à vous.
Merci d'être passé.
Merci Sébastien.
Et merci. Bon courage pour la suite.
Merci.
À bientôt.
Ciao. Ciao.
On va revenir à la plaisance avec notre partenaire, le Globe Sailor, agence de location de bateaux. Olivier, tu participes à la discussion depuis le début. Concrètement, à quel type de saison on peut s'attendre, toi qui as une vision assez panoramique quelque part du marché de la location, qui représente quand même une bonne partie de cette plaisance saisonnière?
Alors, je dirais qu'il y a deux types de réponses avec deux types de visions. En fait, tu as la vision assez optimiste où on peut imaginer que à partir du mois de juin, on puisse naviguer. Donc, les autorisations et les affaires maritimes réouvrent la navigation de plaisance. Et donc, on peut imaginer que les clients se réorientent vers des destinations plus locales pour éviter le transport aérien et où la fermeture des frontières. Et puis il y a une vision plus pessimiste qui est celle de d'un été quand même un petit peu gâché avec une impossibilité de naviguer peut-être jusqu'au mois de juillet et donc il y a certains loueurs, si tu veux, en fonction de leur état d'esprit, qui sont plutôt optimistes ou pessimistes. Nous, ce qu'on voit au sein du Globe Sailor, c'est que on a annulé tous nos départs du mois d'avril et du mois de mai. Et puis chaque mois, si tu veux, on décale un peu plus les départs. Et on a certains clients. On a certains clients qui nous appellent pour reporter ou annuler des départs du mois de juillet et du mois d'août. Hein.
Ma question concrète, c'est que si j'ai réservé, par exemple, pour même le mois d'août aujourd'hui, donc qui n'est pas encore directement concerné par les règles en vigueur, je peux me retourner vers le loueur ou vers Globeseller pour dire, bien, je préfère annuler ou reporter ma réservation.
Ouais. Ça, c'est possible. Oui, légalement, oui. L'ordonnance du Conseil des ministres du 25 mars nous donne l'autorisation à un client d'annuler sa réservation. Et nous, en tant que professionnels du tourisme, on n'est pas obligé de le rembourser. Donc ça va sauver un certain nombre d'entreprises. Par contre, on est dans l'obligation de lui proposer un report. Donc, si tu viens vers moi pour annuler au mois d'août, d'abord, je vais te répondre qu'on est en train de traiter les départs les plus proches parce qu'on a énormément de clients qui nous sollicitent. Et après, quand on va traiter ton dossier, on va te proposer un report sur les 18 mois pour une location similaire dans une destination similaire. Donc c'est rare qu'il y ait des remboursements. Par contre, les reports sont gérés à 100% et c'est ce que font nos commerciaux tous les jours. En fait, on a les clients au téléphone et on gère les annulations et les reports.
D'accord, parce que c'est vous qui collectez l'argent des clients en direct. Il n'y a pas de clients qui cherchent à récupérer ces sous en disant au pire, si ça fonctionne au mois d'août, ben, je reviendrai puis je renouvelle un bateau. Il n'y a pas ce réflexe un peu…
Si, alors au début, pas mal. Là, je te dirais qu'on est à peu près autour de 10% des clients qui souhaitent vraiment un remboursement financier. Disons que avec ces clients-là, étant donné que maintenant l'ordonnance est passée il y a un certain temps et que toute l'industrie du tourisme applique cette ordonnance du report, ils sont conscients qu'on n'est pas obligé de les rembourser. Donc, cette ordonnance nous protège. Donc là, on fait du négociation commerciale avec l'armateur, où on va essayer d'inciter l'armateur à rembourser une partie des arts versés. Et nous, dans ce cas-là aussi, si on trouve un accord, on va rembourser la commission qu'on a pu percevoir. Mais je veux dire que c'est à peu près, c'est moins de 10% des clients. Et souvent, on arrive à trouver une entente plutôt pour un report parce que les clients sont de plus en plus conciliants.
Après, est-ce qu'il n'y a pas deux cas de figure, c'est-à-dire des petits loueurs entre guillemets qui peuvent d'ailleurs gérer une flotte dont ils sont propriétaires? On pourrait légitimement s'inquiéter sur la pérennité quelque part de ces entreprises, puisque même si elles reportent des séjours, elles vont nécessairement avoir moins de chiffre d'affaires cette année. Et puis une deuxième catégorie, on pense au grand nombre d'allocations qui font même de la gestion location, qui garantissent des revenus à leurs propriétaires. Est-ce qu'on peut là aussi légitimement s'inquiéter sur le modèle économique de ce type de business?
Alors, je discutais pas plus tard que ce matin avec un des gérants d'une des plus grosses entreprises de location. Et avec les propriétaires, ils sont organisés pour faire des reports. Donc, ils ne versent pas les revenus garantis actuellement, mais ils vont faire des reports sur la période de leasing de 6 mois ou 8 mois. A priori, au niveau trésorerie pour les gros, sur la gestion location, ils se sont organisés et ils ne sont pas trop en peine. Sur les petits loueurs, c'est vrai qu'il y a une inquiétude et on a des clients qui se questionnent sur la solvabilité dans les 6 ou 12 prochains mois des loueurs et sur notre solvabilité à nous également. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Hein, pour être transparent, Globeseller n'aura aucun problème à traverser la crise. On est prêt, on a pris les mesures adéquates. Par contre, le tsunami et la deuxième vague du tsunami avec dans 6 mois ou s'il y a un été un peu catastrophique, c'est là que les loueurs vont être vraiment en difficulté. Là, on essaye d'être vigilant, de voir un petit peu leur solidité financière et je pense que on est à l'abri de rien. Quand tu vois Thomas Cook qui fait faillite alors que c'était un gros, qu'est-ce qui nous assure qu'un gros loueur ou un petit loueur tiendra la route? On sait pas. C'est vrai que c'est compliqué et ça va, à mon avis, si tu veux, dans un premier temps freiner peut-être les clients à naviguer. Par contre, sur du long terme, je pense qu'ils vont plutôt préférer passer par des agences solides, fiables, dans lesquelles ils ont confiance, plutôt que louer, si tu veux, sur en direct. Ou, à mon avis, le côté agence professionnelle et sécuritaire va être important dans les 12 prochains mois, parce que les clients vont être vigilants sur les conditions d'annulation et tout ça. Mais moi, je suis inquiet sur pas mal de petits loueurs. C'est vrai que ça va être très compliqué.
Accepter un report, c'est bien. Encore faut-il être là.
Bah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un gros sujet.
Une très forte probabilité qu'on n'ait pas le droit de sortir du territoire hexagonal, en tout cas pas dans les pays européens. Est-ce que les loueurs français, toi qui es en contact avec eux au quotidien, quel est l'état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont prêts coûte que coûte, comme dirait l'autre, à faire une saison et à accueillir dans les meilleures conditions leurs clients ?
Alors là, on a pas mal de discussions avec la FIN, avec tous les loueurs. Donc, ils sont tous au taquet, tous les bateaux sont prêts. Ils ont prévu des mesures d'hygiène à bord pour nettoyer les bateaux, éventuellement même pour proposer des masques. Enfin, ils sont tous prêts. Par contre, ils savent pas quand est-ce que les premiers clients vont pouvoir arriver. Les clients étrangers, ils sont très sceptiques. Donc, pour les loueurs multibases, bah, ils sont en train de réorienter les flottes sur certaines bases plus que d'autres en fonction de la clientèle internationale. Mais concernant les loueurs français, ils sont prêts, ouais. Ils sont prêts. Mais par contre, tous disent que s'il y a pas de clients qui naviguent cet été, ça va être compliqué. Ils espèrent tous pouvoir commencer au mois de juin, quoi.
Je pense qu'il y a Alain qui
Alain va nous dire. Merci Alain pour ta contribution et on se tient en courant pour le Salon de Paris.
Merci à toute l'équipe de Radio Ponton en tous les cas. Ça permet bien de garder du lien avec tout le monde. À très vite. Au revoir. Salut.
Donc, bon état d'esprit donc, chez les loueurs français, tu disais Olivier. François-Xavier, tu avais une question à poser ?
Non, je voulais juste faire un petit retour sur. On parlait des loueurs. Nationaux, enfin les petits loueurs entre guillemets. Là-dessus, moi, le retour que j'ai eu, c'est que effectivement, avec les propriétaires, on peut s'organiser, reporter les échanges s'il faut. La difficulté, c'est les bateaux qu'ils possèdent en propre. Et là, donc certains, alors il y a des reports d'échéance normalement possibles avec les établissements financiers qui sont prévus d'ailleurs par les mesures prises par le gouvernement. En revanche, donc effectivement, il propose ces reports. En revanche, ça coûte assez cher, en fait. Lui me parlait sur des catas, des lagunes. Il avait, je crois, 4 000 euros de loyer sur un bateau. Pour le reporter de 6 mois, il y avait 4 000 euros de frais financiers. Donc, forcément, c'est assez dissuasif. Et deuxième point, ces bateaux qui sont donc bloqués au port. Donc là, en l'occurrence, c'est en Martinique. Qui sont bloqués au port. Ils ont essayé de négocier avec l'assureur du fait que les bateaux sont bloqués, donc il n'y a pas de sinistralité, etc. Et puis, vous connaissez la situation. Donc, est-ce que pendant quelques mois, on peut… Donc, c'était niet, quoi. C'était niet. Et là, on a l'autre jour l'intervention du président Macron. Il a fait directement allusion aux assurances, d'ailleurs, en disant, écoutez, s'il vous plaît, jouez le jeu, quoi.
Moi, ce que j'échange avec énormément de loueurs et… Il y a aussi un autre problème, c'est que quand les loueurs font de la gestion pour le compte d'un propriétaire, ils ont certains propriétaires qui ont besoin de cash, ils sont pas tous à l'abri, et donc ils veulent vendre leur bateau. Donc le marché de l'occasion va pas mal bouger. Et pour un loueur, c'est une perte de revenus dans les années à venir si le bateau est vendu. Si c'est lui qui le vend, à la rigueur, il aura peut-être une petite commission dessus. Mais ça, c'est un problème. Et l'autre point, c'est que beaucoup de charges de ces loueurs, ils doivent les payer en début d'année. Les places de port, les assurances, les différents sous-traitants. Et donc, j'ai échangé avec des loueurs qui avaient déjà réglé 90% de leurs charges en fait, au fin du mois de mars. Et après arrive le chiffre d'affaires. Donc, en fait, ils sont le modèle économique aussi est assez complexe parce que beaucoup de charges sont payées et ils se battent avec les ports pour baisser le prix des places de port et c'est pas toujours facile. Alors, c'est une des négos que la FIN doit faire avec le gouvernement.
Là-dessus, moi, ce qui m'a été rapporté, c'est la compagnie des ports de Morbihan. Super partenaire, ils sont allés au devant de centres professionnels pour leur dire Ils ont pris l'initiative de dire, écoutez, de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il faut reporter les échéances? On fait tout ce qu'il faut. Ils se sont très, très bien comportés.
Ça, c'est bien. Mais j'ai l'impression que pas tous les ports sont dans cet état d'esprit.
Je crois qu'au marin, ce n'est pas tout à fait l'ambiance en Martinique.
Ouais. Donc, non, moi, je... Bon, tableau quand même assez sombre, mais pour tout le tourisme. Hein, tout le tourisme, moi, je discute avec énormément d'agences de voyage pour qui l'été, ils ont un peu fait une croix dessus. Hein, et ils se concentrent sur septembre.
Non, mais je pense que le fait qu'on puisse naviguer cet été est vraiment central pour tous les petits métiers, tous les artisans, les voiliers, les accastilleurs, etc. Ça, c'est quand même toute une économie locale qui est irriguée que si on navigue. Pour les loueurs, évidemment, certains rêvent de sauver déjà les derniers week-ends de mai, on verra. Mais, et puis après, aussi pour le plaisir, évidemment, pour s'aérer la tête et pour prendre la mer. C'est hyper, hyper important, ça va décider de beaucoup de choses. Mais moi, j'y crois pas mal parce que c'est quand même pas une activité qui est hyper contaminante quoi, par rapport à d'autres, enfin, les grands festivals de l'été, etc. Je veux bien comprendre qu'on va naviguer.
De toute façon, fixe.
Il y a des sanitaires dans les ports, il y a des trucs comme ça à réfléchir, mais c'est pas non plus. Oui, Stéphanie, excuse-moi.
Non, je disais de toute façon, si on n'a pas le droit de naviguer, c'est qu'on n'a pas le droit non plus d'aller sur les plages. Parce que je ne vois pas comment on pourrait, les plages pourraient être ouvertes et qu'on pourrait interdire l'accès au bateau. Parce que comme tu dis, le bateau est plutôt moins contaminant que d'être entassé sur une plage les uns sur les autres. Quoi. Donc, la grande problématique, ça va être ça. Mais moi, je suis un peu comme toi. Je pense qu'il faut garder espoir d'abord parce que je ne vois pas comment ils vont réussir à contenir une population pendant 2 mois d'été.
Mais non.
Pas bon. Peut-être qu'on se trompe, hein, mais bon, il faut rester. En tout cas, une chose est sûre, nous, on le voit à travers et notre site et puis les contacts qu'on peut avoir avec nos lecteurs là en étant en confinement. Les gens continuent à penser bateau et au contraire, même ils ont envie de se changer les idées. Donc, je pense que c'est sûr que si on a la chance de pouvoir naviguer cet été, de pouvoir aller sur l'eau, pour les concessionnaires, ça sera un moyen peut-être de s'en sortir au moins en tout ce qui est service, vente de petits matériels et tout ça. Bon, après, la problématique des salons et la problématique d'acheter des bateaux neufs, là, ça va être autre chose. Mais je pense que les gens qui sont propriétaires de bateaux, ils n'ont qu'une envie, c'est effectivement de retourner sur l'eau. Hein. Donc, faut espérer.
À nous de faire la promotion des jolies croisières le long du littoral français.
Voilà, exactement.
Et nous allons être nombreux. Merci beaucoup, Olivier Elbari. Et puis, si tu as des nouvelles, si tu sais à partir de quand on peut renaviguer, il faut nous prévenir immédiatement pour qu'on puisse répondre à cette bonne nouvelle. Merci, tu restes avec nous, évidemment. Je vous propose de passer à un autre secteur du nautisme qui est aussi impacté, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la pêche, Benoît Simon.
Eh oui, la pêche. Alors,
Il y a des chalutiers hollandais dans le golfe de Gascogne, c'est vrai, ce mensonge?
Alors effectivement, il y aurait quatre grands chalutiers, donc des chalutiers qui sont compris entre 80 et 120 mètres de long, qui seraient en train de croiser, qui étaient en tout cas en train de croiser au large du golfe de Gascogne, qui sont des chalutiers pélagiques et de fond. Donc c'est les deux avec pardon.
Ça ramasse gros ça.
Donc c'est des bateaux qui ramassent jusqu'à 200 tonnes en une nuit de poissons. C'est l'équivalent de ce que vend, de ce que récupère la criée de l'Orient, qui est une des plus grandes criées de France en une nuit également. Donc effectivement, c'est des bateaux, comme on le disait en début d'émission, qui sont d'armateurs hollandais, mais c'est pas forcément des bateaux hollandais. Ça peut même être des bateaux français dans le sens où, à partir du moment où les Hollandais ont épuisé tous leurs quotas, ils se servent de l'achat de bateaux français pour pouvoir pêcher dans les eaux françaises. Donc là, effectivement, on a un peu ce souci avec ces bateaux dans le sens où on a aujourd'hui une grande partie de notre flotte de pêche, notamment les petits pêcheurs artisans qui est bloqué à quai et qui peine aujourd'hui à vivre. Hein. On sait depuis des années que malheureusement, la pêche en France, c'est quelque chose de compliqué, notamment à cause des coûts que ça implique en termes d'entretien de bateaux, de gasoil, de pour payer les longs rigages, mais également la raréfaction de la ressource, hein, comme on l'évoque souvent dans cette émission, mais c'est vrai qu'il y a une raréfaction de la ressource. Et effectivement, les petits aujourd'hui voient vraiment ces chalutiers avec avec du sang dans les yeux, si on peut dire, quoi. C'est sûr que c'est assez rageant pour eux, d'autant que bon, je vais quand même faire rapidement un point sur ce qui se passe par rapport au crié. Donc c'est les endroits où arrive le poisson. Aujourd'hui, globalement, il y a eu une grosse inquiétude. Donc au début de, aux alentours du 15 mars, au début du confinement, avec de nombreuses criées qui ont dû fermer, mais finalement, ils ont réussi à trouver un point d'équilibre et on s'est rendu compte qu'elles ont réouvert toutes au fur et à mesure. Alors, pour exemple, dans les Cornouailles, donc en point de Finistère, on a toutes les criées qui sont ouvertes. Alors, elles sont toutes ouvertes, mais forcément, elles n'ont pas les mêmes clients et donc ce n'est pas les mêmes quantités de poissons qui sont vendues et on est sur des quantités aujourd'hui qui sont de l'ordre de, 50-60% de ce qui est vendu habituellement. Avec une incertitude quant à ce qui va être acheté, puisque par exemple les espèces nobles qu'on peut prendre, notamment les turbots, qui est un poisson qui coûte cher, qui est très bon, aujourd'hui il a relativement peu d'acheteurs parce que ses clients principaux auparavant étaient les restaurants qui aujourd'hui sont fermés. Donc effectivement on est sur un équilibre délicat entre l'offre et la demande, puisque le pêcheur, c'est pour ça qu'en fait le pêcheur ne sort pas, parce que s'il sort et qu'il ramène trop de poissons, d'une part, ça va lui coûter de l'argent qu'il ne pourra pas rentabiliser avec la vente qu'il aura fait en billet. En plus, ces poissons seront souvent pas achetés, enfin souvent, en tout cas pour une certaine proportion, pas achetés et donc jetés à la poubelle ou transformés en farine animale. Et en plus, par-dessus ça, vous savez que les criées, c'est un petit peu comme la bourse, c'est-à-dire que le poisson, quand il arrive, il a une valeur. Et ces valeurs, pour une grande partie des espèces, ça a pu baisser jusqu'à 50% de la valeur qu'elle avait avant la crise. Donc un poisson qui était, on va dire, à 20 euros le kilo, aujourd'hui, il peut se retrouver à 10 euros le kilo. Donc c'est vraiment quelque chose qui impacte fortement l'économie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a si peu de bateaux aujourd'hui qui pêchent. Mais la tendance commence quand même tout doucement à s'améliorer, avec notamment une implication un peu plus importante de certains distributeurs comme Leclerc, par exemple, qui s'engage à racheter toute la pêche de certaines pêcheries.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a moins de bateaux sur l'eau en termes de pêche professionnelle, parce que c'est les seuls, on l'a dit tout. Nous, aujourd'hui, on est dans la plaisance, on a parlé beaucoup de plaisance, mais effectivement, les pros, eux, continuent à travailler. Puisque c'est des métiers primaires, la pêche est un métier primaire pour nourrir l'homme. Et effectivement, eux, il me semble qu'il y a un bateau sur cinq qui travaille. Voilà, ça c'est
incroyable. Deux questions, Benoît. Un, est-ce que ça va avoir un impact positif sur la ressource dont on parle souvent ici?
Alors, très bonne question. Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que si tu veux, on a actuellement l'impression que ça a un bon impact sur la ressource, dans le sens où on voit arriver plein d'oiseaux, des dauphins et même des baleines. Alors, vous l'aviez dit au début, on peut quand même le souligner, effectivement, j'espère que tout le monde l'a vu ici, mais il y a une semaine, à quelques milles de Marseille, on a vu deux rorquals communs. Donc, les rorquals communs, c'est le deuxième plus grand animal au monde et qui fait partie de la famille des rorquals bleus, qui est la baleine bleue, et c'est effectivement des baleines qu'on croise en Méditerranée. Il me semble qu'il y en a 300 ou 350. Et moi-même, personnellement, j'ai eu la chance, il y a deux ans, en allant en Corse à la voile depuis Porquerolles, d'en croiser deux également. Et c'est vraiment un spectacle formidable. C'est des bateaux qui font des animaux qui font à peu près 20 mètres. Et là, c'est vrai que c'est un spectacle d'autant plus intéressant qu'ils n'étaient pas inquiets par l'humain. Ils restaient aux abords de ces bateaux qui patrouillaient. Donc, effectivement, c'est des espèces reviennent. On voit que des thons se baladent très près de la côte, des oiseaux, etc., etc. Mais malheureusement, on s'est rendu compte avec des expériences passées comme les guerres, que en fait, il faut beaucoup plus de temps que 3 mois pour que la nature revienne. Et il faudrait une saison. En fait, il faudrait un cycle entier, un cycle complet. Et malheureusement, pour l'instant, les prévisions. Alors, heureusement pour nous, malheureusement pour eux. Si on reste dans la situation d'un déblocage du 11 mai, ça ne sera certainement pas suffisant pour permettre au stock de se refaire et donc d'améliorer les pêcheries pour le futur. Voilà, donc c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Tout à fait. Et j'ai une deuxième question, en fonction bien sûr des autorisations de naviguer à nouveau, est-ce que tout ça va avoir un impact sur le calendrier des dates d'autorisation de pêcher certaines espèces?
Alors non, ça va rien changer sur les autorisations de pêche, parce que bon, de toute façon, globalement, les choses sont lancées, hein, c'est-à-dire il y a pas vraiment il y a des campagnes. En fait, il y a pas vraiment d'interdiction pour la pêche professionnelle, il y a pas vraiment d'interdiction de pêche à des moments. C'est plutôt des campagnes. On lance des campagnes parce que le poisson à ce moment-là va pas frayer ou va être dans des postures plus plus facile à repérer. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va le pêcher. Donc là, par exemple, effectivement, là, normalement, au mois de mars, les gens à 7 partent pêcher le thon. Il y a les campagnes du thon qui commencent. Bon, bah là, on s'est rendu compte que malheureusement, c'était pas la même chose que les autres années, c'est sûr. Il y avait moins de campagnes. Donc, c'est pas du fait d'une réglementation, mais c'est uniquement du fait de la maladie et du fait que bah, là, ils vont rater du coup une campagne, c'est clair. Autre exemple qui est plus parlant pour nous, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc la coquille Saint-Jacques, bah, il y a eu effectivement un arrêt de la pêche à la coquille Saint-Jacques au début du confinement. Et là, le 6 avril, dans la baie de Saint-Brieuc, donc Paimpol, etc., et ben, on a permis aux pêcheurs de retourner pêcher la coquille Saint-Jacques. Et donc, parce qu'elles étaient présentes, mais également parce que les entreprises avaient réouvert. C'est-à-dire que derrière, il ne faut pas oublier que derrière une pêche, il y a toute une industrie. Et pour la coquille Saint-Jacques, bah, notamment le dépiautage pour récupérer bah, le bulbe, la coquille en elle-même, et bah, c'est une industrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que c'est pas un bateau qui part, qui ramène une coquille Saint-Jacques et qui l'avance. C'est toute une chaîne. Et effectivement, quand la chaîne derrière ne suit pas, bah, malheureusement, ils ne peuvent pas faire le job. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a remis en route le 6 avril cette chaîne, alors que cette chaîne était fermée auparavant. Donc,
Nous, on est là pour les manger, hein, pas de problème, fidèle au poste.
Oui. Voilà. Ça nous sert de transition, en tout cas, avec la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce qui est au sommaire du prochain pêche en mer? De quoi on va parler
là? Alors oui, alors, bon, alors, là, j'ai parlé de pêche professionnelle, mais c'est vrai qu'on reste dans le domaine du loisir et on est des plaisanciers tous ici. Et bah, voilà, effectivement, nous, c'est pareil, on est comme vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en mer, on ne peut pas pêcher. Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu un grand dossier. Un dossier pour expliquer bah, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour optimiser non seulement son matériel, mais également sa réflexion dans un moment où c'est porteur. C'est vrai qu'on entendait avant un coureur parler de réflexion sur la météorologie, etc. Bah, nous, c'est un peu pareil. On va travailler sur des choses comme ça. Et donc, on propose un grand dossier avec chaque auteur qui nous donne bah, ses tuyaux, quoi faire en ce moment pour s'occuper et arriver meilleur quand on pourra retourner sur l'eau, on l'espère, cet été.
D'accord. Est-ce qu'il y a des conseils pour organiser une partie de pêche à la ligne pour occuper ses enfants pendant le confinement?
Non, c'est les ateliers nœuds. Hein. C'est les ateliers nœuds. Et vous avez des très bons boots. Et effectivement, les nœuds de pêche sont un peu plus complexes que ceux de voile et occuperont les enfants plus longtemps. Ah. Notamment, je vous conseille le bimini. Mais déjà, il faut savoir le faire soi-même. Mais si vous arrivez à le faire vous-même, ça occupera les enfants pour 3 jours de savoir faire un bimini.
Bon, pêche en mer, en kiosque pour occuper vos enfants et occuper aussi les plus grands. Merci beaucoup, Benoît.
Merci à vous. Merci.
Michel.
Oui.
Neptune Yachting, de quoi on parle dans Neptune Yachting en ce moment-là?
Alors, le Neptune Yachting, on a deux magazines ce mois-ci, un qui est paru le 1er avril, l'autre le 10 avril. Le 1er avril, magazine, on va dire que bah, c'est le numéro 286 de Neptune, un numéro classique. Mais je pense que c'est un vrai spécial déconfinement depuis son salon, parce que on a trois reportages de choix qui vont faire voyager le lecteur. On traverse l'Atlantique, on va direction le salon de Miami Boat Show, qui reste un salon encore exceptionnel. Il faut y aller, il faut continuer à y aller. C'est le salon le plus trumpiste de la planète. Alors, si je peux me permettre ce mot, parce que c'est très excessif, c'est un salon très excessif avec des bateaux surmotorisés. Cette année, on a vu un bateau avec
Michel.
350 chevaux. C'est assez exceptionnel. Oui.
Tu dis ça pour nous donner envie d'y aller? Je vois pas trop le...
Oui. Non, il faut y aller. Il faut y aller parce que d'abord, il fait très beau à Miami. Les photos sont magnifiques dans le magazine, tu vas pouvoir le constater. Et ça reste quand même un salon extraordinaire par sa dimension, si tu veux, voilà. Et puis son côté excessif, évidemment, c'est pour ça que c'est un salon très trumpiste. Alors ensuite, on a un deuxième sujet en Alaska, qui est, on continue à suivre Joël Marc, qui est un de notre navigateur favori, qui est un néo-calédonien qui possède un Selen 66 et qui est parti en Alaska. C'est un reportage super avec des photos extraordinaires en drone. Et puis lui, on peut le suivre si vous voulez sur son blog aussi. Il a un blog qui s'appelle myjad.fr et il raconte toutes ces histoires de navigation. C'est palpitant. Et enfin, troisième reportage de choix, ben, ça serait une visite du chantier du Bourdieu, qui est le plus ancien chantier français, Là, on part à Gujan-Mestras, sur le bassin d'Arcachon, où Emmanuel Martin construit encore des bateaux tout en bois et qui sont des pinasses modernes qui font le bonheur des gens qui naviguent sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Et puis, on a un deuxième magazine, si je peux me permettre. C'est le hors-série spécial Multicoque qui est sorti le 10 avril.
C'est une première.
Oui, là, on s'inscrit dans le sillage du multicoque de Voile Magazine. Alors, pourquoi un multicoque moteur? Eh bien, parce que c'est quand même très tendance. C'est devenu très tendance. Et c'est un phénomène, c'est plus qu'un phénomène de mode, puisque le multicoque se vend très bien. Pour les charters, évidemment, pour le charter, mais aussi pour le particulier. Ça intéresse de plus en plus les particuliers. Donc là, on a fait une sorte de synthèse de tous les articles qu'on a fait ces deux dernières années. Et donc, on a une dizaine d'essais à la clé. Et je pense que la personne qui s'intéresse au multicoque trouvera son bonheur. Voilà.
D'ailleurs, je vous rappelle que à l'heure où on parle, on devrait être au salon du multicoque.
C'est vrai. Ouais. Grand mode, c'est un peu moins 30 pistes que Miami, mais c'est quand même très sympathique fin du mois d'avril, n'est-ce pas Olivier? Merci beaucoup Michel. Napping Yachting, donc double numéro en kiosque. De qui n'avons-nous pas parlé? Motorboat, Stéphanie.
Oui. Alors moi déjà, je voulais dire que dans cette période de confinement, donc on continue à faire les magazines en version print, donc papier. Donc les magazines sont toujours fabriqués et distribués chez une grande partie des points presse et dans les magasins de journaux qui sont ouverts, les tabacs et les grandes surfaces qui ont des points presse. Donc ça, c'est important. Mais que on propose aussi pour les gens qui ont un peu la trouille de sortir et qui préfèrent, qui sont bien confinés chez eux, on propose aussi une version digitale. Alors pour ça, il suffit de télécharger les applications Neptune, Motorboat, Voile Magazine ou La Pêche en Mer sur Google Play ou sur Apple Store. Et puis, à partir de là, vous avez accès à tous les numéros et vous choisissez le numéro qui vous convient. Donc ça, c'était juste pour faire un petit rappel parce que je pense que c'est important dans ces périodes-là. Il y a plein de gens qui nous demandent si oui ou non les magazines continuent. Oui, on continue à les faire et ils continuent à être imprimés. Donc voilà. Donc nous, Motorboat est en kiosque demain. Donc notre numéro daté mai. Donc nous, dans ce numéro-là, on a fait un petit dossier qui incite les gens à réviser leurs manœuvres pour profiter de ce d'abord les occuper pendant ce confinement et puis être comme ça prêt à reprendre les manettes dès la fin du confinement. Donc voilà, on a fait aussi un reportage très sympa sur l'Institut Nautique de Bretagne dont on avait parlé dans cette émission il y a de cela quelques mois. C'est quand même un centre de formation qui forme pas loin de 500 personnes par an au métier du nautisme. Donc on est allé ils nous ont ouvert leurs portes et on est allé à la rencontre des formateurs et des élèves et il y a des témoignages vraiment très sympathiques. Donc voilà, on s'est posé la question aussi au niveau électronique. Ce qui était mieux entre les terminaux mobiles, tablettes, smartphones, qui sont désormais très utilisés en bateau, ou les équipements fixes, multifonctions, qui sont spécialement dédiés au nautisme. Et puis, la réponse est beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait croire. Voilà, et enfin, pour faire un peu rêver, on a fait une navigation assez inédite et assez méconnue. C'est la remontée du Havre de Brouage, en Charente-Maritime, près de Rochefort. On est allé à la découverte de cette citadelle qui n'a jamais servi, comme on l'appelle, qui est en fait une magnifique citadelle qui a été commandée, entre guillemets, par Richelieu. Et puis, bien évidemment, Vauban y a mis sa patte. Et c'est un village qu'on a réussi à atteindre en remontant donc ce Havre, qui est, avec une hauteur d'eau quand même très limitée. Donc, on était sur un tout petit bateau. Mais c'est une très jolie navigation, complètement dépaysante et très, très différente de ce qu'on a pu faire jusque-là. Donc, voilà. Voilà pour Motorboat numéro 365 en kiosque dès demain.
Et en version digitale.
Et en version digitale sur les applis, exactement.
Absolument. Merci Stéphanie. Damien, François-Xavier.
Ouais, Stéphanie, tu faisais bien de rappeler… Bien sûr, on est disponible en digital et en ce moment, c'est encore plus important. En plus, c'est une version qui est enrichie, où il y a plus de choses, il y a de la vidéo, il y a des contenus liés au contenu du magazine. Nous, dans ce numéro, on a fait le choix de zapper la crise et de se projeter directement dans le monde d'après, avec ce petit mot d'ordre qu'on a mis en couverture, et si on changeait tout. Donc, on a proposé de changer notre façon de construire des bateaux avec une enquête, une réflexion de fond de Cécile Ouanan sur les biocomposites autour du Virgin Morito, qui est le premier bateau de série en fibre de lin. C'est un Morito 888, donc de IDB Marine, en fibre de lin, donc passionnant. On propose aussi de changer notre façon de naviguer en croisière. Là, c'est Damien qui allait rencontrer un équipage qui part en voyage. En essayant de ne produire aucun déchet, donc avitaillement zéro déchet, organisation de la cambuse bio, traitement des déchets, etc. Et donc là aussi, donc ça peut être une source d'inspiration pour nous, même pour des croisières d'une semaine ou deux. De la même façon, on est allé avec Quentin de Châtel-Perron, on s'est interrogé sur d'autres manières de bricoler à bord et de faire de la récup, etc. Et c'est des travaux. On peut beaucoup s'inspirer de ce que fait le Low-Tech Lab, qui est donc l'association de Quentin de Châtel-Perron. Et sur le site Low-Tech Lab, tout ça, il y a des tas de tutos super bien documentés. Voilà, en course, on est allé voir des équipes qui essayent d'avoir moins d'impact sur l'environnement, qui parlent de Vendée Globe, notamment MACSF. Et puis, on est aussi allé à la rencontre d'un gars très sympa, un marin grec, qui navigue utile et qui transporte et livre des marchandises entre les îles grecques. Des marchandises de petits producteurs, du vin, de l'huile d'olive, des fromages, etc. Voilà. Et puis aussi tout le voile mag, je dirais le 100% voile mag, avec un grand essai du Boreal 55, pendant lequel on a fait un podcast très sympa avec Jean-François Delvoye. Remplacement des cuves à eau douce sur le sillage 38 Diaphanie de notre ami Paul Gury, que l'on salue. Et puis du matelotage, la côte de l'Argus, enfin tout Voile Magazine, quoi.
Super. Et dans les dernières nouveautés digitales, je crois que Voile Magazine lance un quiz.
Ah, mais tout à fait. Vous allez pouvoir tester vos connaissances et votre culture nautique. Un quiz en ligne, 20 bateaux à reconnaître dans un temps limité. Donc là, je pense que ça va susciter déchaîner les passions.
Moi, je mise sur une très bonne moyenne, voire une mention d'Olivier Perretier qui devrait être incollable dans ce domaine. Olivier,
ah ben, ça dépend si c'est les unités d'avant 1950, oui.
Il y a un peu de tout, mais il n'y a pas que des bateaux en bois. Voilà. Mes amis, Radio Ponton, c'est terminé. On retrouve tous les magazines en kiosque. On va essayer de reprogrammer une date très prochainement pour continuer ces échanges. Parce que finalement, même si on est encore chez nous et qu'on a envie de naviguer, rien ne nous empêche de continuer à discuter. Merci Damien pour l'organisation de cette émission. Merci Olivier Perretier, Olivier Albari, d'avoir
participé. Merci, à bientôt.
Benoît Simon, Michel Luizet, Stéphanie Deloustal, François-Xavier et Damien Biden. Radio Ponton, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.
Ciao Péry, à bientôt.
Au revoir, merci.
Bye bye.
Radio Ponton.